Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, donc les Russes votent dimanche à des élections locales et vous resserrez la focale sur le Parlement de Moscou.
Oui, vu d'ici, ça peut paraître anecdotique. Le renouvellement de la Douma de Moscou, qui élit ensuite le maire de la capitale russe, est en réalité un scrutin important. D'abord parce que ce Parlement russe a le pouvoir de métamorphoser la mégalopole et la ville a beaucoup changé en quelques années. Ensuite et surtout parce que l'opposition n'aura pas réussi à présenter des candidats cette année, ni à Moscou, ni à d'autres scrutins locaux d'ailleurs. Des dizaines de candidatures ont été invalidées, ce qui avait déclenché de grandes manifestations cet été. Manifestations suivies de très près par Vladimir Poutine, 2700 interpellations en un mois et demi, preuve que le pouvoir en place ne prend pas ses élections à la légère. Bonjour Anastasia Shaposhkina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence en géopolitique à Sciences Po Paris, spécialiste de l'Europe et de la Russie. D'abord un zoom avec vous sur ce Parlement de Moscou qui existait sous une autre version de la fin du 19e siècle jusqu'à la chute de l'Empire russe en 1917, remplacé sous le régime soviétique par un conseil des députés du peuple. La Douma de Moscou d'aujourd'hui, elle existe depuis les années 90. Alors à quoi ressemble-t-elle et à quoi sert-elle?
La Douma de Moscou, c'est un conseil municipal. Il y a 45 délégués qui sont élus pour un mandat de 5 ans.
Et aujourd'hui, il y a des délégués d'opposition?
Il y a la majorité, donc sur 45, il y a 28 délégués de la partie Russie Unie, qui est le parti du gouvernement. Sept délégués de l'opposition systémique, donc les communistes, les libéraux démocrates,
qui sont acceptés par le régime,
et ensuite 10 candidats indépendants, y compris les candidats qui soutiennent le régime. Et parmi eux, il y a 2-3 candidats qu'on peut dire l'opposition non systémique.
Donc 45 personnes qui gèrent un budget de l'équivalent de 35 milliards d'euros, avec notamment le pouvoir de décider d'énormes chantiers. Et tous ceux qui connaissent Moscou disent que la ville a énormément changé ces dernières années.
Énormément changé, l'ouverture des nouveaux parcs, des créations des espaces piétons, vraiment l'européisation, on peut dire, de la ville dans le sens de l'espace pour la voiture versus l'espace pour le piéton. Beaucoup de redécoration sur la ville et pour ça, le maire avait reçu beaucoup de déclames, on peut dire, positifs avant toutes ces manifestations et ces réactions.
Le maire Sergueï Sobyanin. Alors, ces manifestations, elles sont dues au fait qu'à la mi-juillet, la commission électorale a rejeté les candidatures. Alors, selon les sources, on lit 27 ou 57 personnes de candidats indépendants.
Autour de 56 personnes.
Aux 56 personnes, dont des candidats de l'opposition à Vladimir Poutine officiellement pour vice de forme. Alors que, si j'ai bien compris, ils avaient tous récolté le quorum de signature de soutien dans leur circonscription.
Le quorum de signature a été fixé quand même assez haut. Donc il fallait que chaque candidat récolte 3% de signatures de 3% de ses électoraux potentiels.
C'est un seuil qui a été augmenté d'ailleurs récemment. Ça devait être 0,5%, aujourd'hui c'est 3%.
C'est 3%, exactement. Et donc ça arrive, comme ce sont des élections par, on peut dire, arrondissement, donc ça arrive vers 5 000, entre 5 et 7 000 personnes par candidat. C'est-à-dire très dur quand même pour des candidats qui ne sont pas donnés vraiment l'accès aux médias ni rien, de lever ce nombre de signatures. Et chacun d'eux a réussi à le faire. Donc ils ont vraiment, même on peut dire, utilisé cette barrière d'accès aux élections comme un levier même, on peut dire, pour accéder ensuite aux électeurs. Donc ils ont vraiment déclenché la véritable campagne électorale, même avant que les élections ont commencé.
Sauf que la commission électorale a dit non, vice de forme. Alors par exemple, pour certains, c'était des signatures qui, d'après la commission électorale, étaient illisibles. Et d'autres, alors à Saint-Pétersbourg, par exemple, des candidats avaient traversé à des passages piétons, mais hors des clous. Et ça, donc, ils ont été invalidés.
Il y avait beaucoup de candidats qui ont été validés à Saint-Pétersbourg. Et donc, il n'y a pas que...
Parce que c'est un crime de traverser hors des clous en Russie.
Non, pas forcément. Et après aussi, à Saint-Pétersbourg, ce qui était aussi à Saint-Pétersbourg, c'était 244 candidats d'une partie, donc qui est plus une partie, c'est une fraction, donc politique oppositionnelle depuis assez longtemps, donc Yabloka, ont été disqualifiés sur 550 candidats qui se sont présentés. Mais le plus curieux, c'était aussi, c'est un autre phénomène qui s'est manifesté à Saint-Pétersbourg, même dans le cadre de ce qui s'appelle opposition systémique, donc l'opposition qui soutient le régime, comme les communistes. Un candidat qui s'est présenté pour l'opposition du maire de Saint-Pétersbourg, il a retiré sa candidature volontairement, entre guillemets, parce que les sondages ont montré qu'il a beaucoup plus de chances de gagner que le candidat de la Russie unie, juste pour laisser la place.
Laisser la place. Alors en ce qui concerne Moscou, l'historienne Galia Kerman sur cette antenne faisait cet été le lien entre les gros chantiers, la capitale russe, et les rejets de candidature, en remarquant que ces personnes qui se sont vues refuser la candidature aux élections sont tout ou presque liées à des organisations anti-corruption. Et notamment, disait-elle, la corruption est très présente sur les chantiers.
Bien sûr.
Et c'est le cas pour tous ceux qui ont été rejetés. Ils sont tous liés à des fonds anti-corruption ou des...
La corruption est très présente dans tous les chantiers. Et ce phénomène a été notamment révélé par le fonds de Alexei Navalny, qui est aujourd'hui, on peut dire, la personne qui incarne l'opposition non systémique. Il y a d'autres personnes autour d'Alexei Navalny qui participent dans son fonds, notamment un des leaders de ces manifestations, Lubov Sobol, qui a mené aussi le grève de faim.
Une avocate de 31 ans.
Exactement.
Dont la candidature a été refusée.
Et donc ça, c'est vraiment une main droite d'Alexei Navalny, qui n'a pas pu lui-même donc se présenter dans ces élections. Et ensuite, il y a aussi les candidats de l'opposition non systémique qui existaient bien avant Navalny. Par exemple, il y a Yashin, qui a été déjà membre du conseil municipal de Moscou avant et qui est dans l'opposition depuis une quinzaine d'années.
Il y a Yashin qui passe la majorité de son temps en prison d'ailleurs.
Oui, exactement. Donc là, les tactiques des pouvoirs, c'est comme ils ne peuvent pas vraiment leur mettre en prison pour un crime, ces gens-là. Donc ils les interpellent pour 15 jours, donc le maximum possible, ou pour 30 jours, notre maximum possible, selon l'infraction. Et ensuite, ils renouvellent ces interpellations, ce qui a comme résultat que le candidat, il peut plus organiser ses troupes, il peut plus organiser une manifestation, et donc il est toujours derrière les barreaux, même s'il n'y a pas vraiment une décision judiciaire.
Alors certains opposants très alertes sur les réseaux sociaux, très forts aussi en communication sur leur propre personne, il faut le dire, appellent aujourd'hui au vote intelligent. Mais qu'est-ce que c'est selon eux le vote intelligent pour dimanche ?
Donc là, il y a trois possibilités qui sont donc recommandées comme une stratégie par les leaders de l'opposition. La première possibilité, c'est aller et dommager son bulletin de vote. Ça va pas résulter en grand chose.
L'endommager, l'abîmer, faire en sorte qu'il ne soit pas valable.
Exactement, on peut le déchirer, on peut écrire quelque chose, je proteste, là-dessus. Voilà. Ça, c'est l'invalide, donc ce bulletin de vote, mais ça n'a aucun impact sur les élections, sur le résultat. Donc ça, c'est vraiment, on peut dire, d'une sorte, vous gâchez votre vote. Deuxième recommandation, c'est de voter pour n'importe quel candidat qui n'est pas le candidat de la Russie unie.
Et du parti de Vladimir Poutine.
Exactement, donc d'une sorte aussi de ensuite empêcher ce parti de venir au pouvoir, sachant que autant que le vote est fait, aussitôt que le vote est fait, ces candidats-là, s'ils font partie de l'opposition systémique, vont s'allier avec le pouvoir. Donc, et troisième position, c'est de voter pour les candidats qui restent, qui vont se proclamer en soutien pour la libération de tous ces gens-là qui ont été arrêtés, donc 2700 personnes en tout, donc qui ont été arrêtés, y compris des gens qui n'avaient rien à voir avec les manifestations ou qui ont manifesté pour la première fois dans leur vie, les gens qui sont étudiants, les gens qui ont 14 ans, 17 ans aussi, y compris. Et donc les candidats qui s'expriment clairement pour ces gens-là, c'est eux qui doivent être soutenus.
Quand ces candidats de l'opposition qui disent que ce plan est censé ruiner les plans électoraux de Russie unie et lui saper le moral. Mais pour conclure, Anastasia Shapochkina, le fait que le pouvoir en place ait procédé à 2700 interpellations cet été, est-ce que ce n'est pas déjà une preuve que le régime est sur le qui-vive de refuser des candidatures à tour de bras? C'est aussi un signe de fébrilité, davantage qu'un signe de toute puissance.
Bien sûr. En plus que cette même tactique a été employée partout en Russie, en plus que les supporters d'Alexei Alexei Navalny ont réussi de lever quand même les protestations, les manifestations dans 40 villes en travers de la Russie cet été, sur le même, autour de la même problématique. En plus que, de plus en plus, donc au fur et à mesure de ces manifestations, les gens ont commencé à sortir aussi en réaction à la violence des forces de l'ordre, et pas seulement à cause de cette raison initiale des manifestations. Et ce qui, en résultat, maintenant, on voit que le taux de popularité de Vladimir Poutine, qui a déjà été autour de 40% en début août, aujourd'hui, est estimé à 32%. Très petit comme taux de popularité pour un autocrate.
Et d'ailleurs, j'avais cru comprendre, toute dernière question, que en fait, il n'y avait pas de candidat sous l'étiquette vraiment Russie unie, parce que c'était aujourd'hui signe de...
Il y a beaucoup de candidats qui se retirent effectivement de la Russie unie, de ce ticket-là, parce que la Russie unie, elle est déjà complètement dans le chou depuis un
elle
moment.
Elle est impopulaire.
Et ils sentent qu'ils vont avoir plus de chances de gagner comme les indépendants.
Merci beaucoup, Anastasia Shapochkina, d'avoir été avec nous ce matin.